Ce qui est de plus précieux dans une communauté, c'est la présence de Dieu. La présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit est irremplaçable. Et où que vous allez, lorsque la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Je prie que ce matin, nous ayons un cœur ouvert pour l'impulsion que le Seigneur veut nous donner et l'enseignement qu'il veut nous donner. Ce matin, j'aimerais que nous puissions voir la richesse de la bénédiction. Je vais vous donner le titre exact du message dans quelques instants, pas tout de suite. La richesse de la bénédiction. Car la première chose que le Seigneur dit dans la Genèse, au chapitre 1 déjà, c'est qu'il a créé l'homme et la femme, et la première chose qu'il dit, il est béni. On dirait que le monde ne peut pas démarrer sans la bénédiction du Seigneur. Il faut la bénédiction avant toute chose. Et quand je fais les préparations au mariage, j'ai toujours toute une série de dossiers à donner, des questionnaires, etc. Et une des premières choses que je demande, mais pourquoi demandez-vous une bénédiction ? Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Est-ce que vous sentez le besoin ? Est-ce que vous êtes convaincu que sans la bénédiction, il y a une dynamique qui ne marchera pas dans votre couple ? Vous avez besoin, et Dieu le dit, qu'il aime, qu'il veut bénir. Par exemple, dans Deutéronome 28, au chapitre 28, verset 8, il est dit que l'Éternel ordonna la bénédiction d'être avec Israël, dans ses greniers, dans cette économie, dans les entreprises. Il bénira, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le Seigneur est un Dieu généreux, il veut bénir. Au point que, pour Israël, les sacrificateurs et surtout la lignée d'Aaron, les sacrificateurs, les Lévites, devaient bénir jour après jour Israël. Et jour après jour, ils étaient quelque part, peut-être au moment de la prière du matin ou du soir, ils étaient à l'approche du tabernacle, ils étaient peut-être même près des maisons et ils étendaient les mains vers les quartiers, vers les tentes qui s'étalaient à droite ou à gauche, et ils devaient dire que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire son visage sur toi, que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'était tous les jours qu'Israël avait besoin de cette charge, de ce poids de bénédiction, de cette dynamique de bénédiction qui était nécessaire. C'était une bénédiction qui enrichissait leur vie. Mes frères, mes sœurs, est-ce que la bénédiction de Dieu enrichit-elle votre vie ? Est-ce que nous en avons besoin ? Est-ce que nous pouvons nous en passer ? Non, j'espère que non. Alors, c'est vrai que dans nos prières, souvent, nous demandons très souvent la bénédiction. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mes petits-enfants, bénis nos églises, nous demandons tout le temps la bénédiction. Je crois que c'est le terme qui revient le plus dans nos prières, je pense. Maintenant, le Seigneur veut que la bénédiction continue. Alors, bien sûr, il a béni du haut du ciel. Quand nous le prions, il nous bénit, mais Dieu choisit aussi de faire passer sa bénédiction au travers de nous. Il veut bénir par délégation. Et c'est pour cela qu'il a besoin de chacun de nous. Dans les temps de l'Ancien Testament, dans les temps d'Israël, eh bien, il y avait des personnes qui étaient chargées de transmettre la bénédiction. Nous voyons ça très clairement, et je vais arriver gentiment à mon thème vraiment. C'était les patriarches qui transmettaient la bénédiction. Ils le faisaient avec foi, ils le faisaient avec une autorité, ils le faisaient avec amour. Vous savez, la bénédiction, c'est pas un rite, c'est pas juste une formule, c'est pas un slogan. La bénédiction, elle a du poids lorsque c'est la personne avec qui elle est qui bénit. Moi, je ne voudrais pas recevoir une bénédiction de quelqu'un qui a des grandes paroles, mais dont la vie ne correspond à rien. Moi, je ne voudrais pas me laisser imposer les mains par quelqu'un qui veut me bénir, mais dont la vie ne parle pas ou même pose des questions. Mais justement, Dieu demandait au patriarche de bénir ou au père de famille de bénir avec amour parce que les enfants réclamaient cette bénédiction parce qu'ils voyaient vivre papa et maman. Ils avaient un témoignage. Ils étaient une référence, ils étaient des exemples, des modèles. Et c'est pour cela que la bénédiction avait un poids, parce qu'elle venait de gens qui représentaient, pas des paroles, mais qui étaient des médiateurs entre Dieu et la personne qu'ils devaient bénir, parce qu'ils avaient une vie qui correspondait à ce qu'ils disaient. Et frères et sœurs, le monde cherche aujourd'hui des gens, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui non seulement ont un message, et nous devons avoir un message, mais qui derrière le message ont une vie qui est alignée à leur message, dont la vie est le message, dont la vie est le message. Parce que les gens vont oublier peut-être vos paroles, mais ils vous voient vivre. Nos enfants ne se souviendront pas de tout ce qu'on a dit, mais ils se souviendront toujours de qui on était. Plus tard, quand on ne sera plus là. Pensez à vos parents. Vous ne vous souvenez plus de toutes leurs paroles, mais vous vous souvenez de qui ils étaient et des valeurs qu'ils vous ont laissées par leur vie. Même des parents qui ont peu parlé peuvent laisser des traces très profondes par leur vie. Et Dieu nous dit, j'aimerais que tu transmettes ma bénédiction par ta vie. Par ta vie. Vous savez que je n'ai jamais raconté mon témoignage dans tous les détails ici, mais je viens donc d'une région en Belgique où, dans ma tendre jeunesse, nous n'avions que la connaissance de l'Église catholique du village ou des villages de l'Est en Belgique, du côté de l'Allemagne, du Luxembourg. Et je n'ai jamais rien vu d'autre jusqu'à l'âge de 21 ans. Je n'ai jamais rien vu d'autre. Par contre, les traditions étaient très fortes. Et la pratique des célébrations était très, très suivie. Et de ce temps-là, l'autorité religieuse représentée par le curé était très, très forte et très importante. Et lorsque j'ai feuilleté un livre qui raconte l'histoire assez mouvementée de notre région, qui est une histoire que je ne vais pas raconter ici, mais une histoire qui a été aussi marquée par la guerre, un peu comme en Alsace, un peu la même chose. Et lorsque je feuilletais ce livre, je me suis arrêté sur une photo des années 60 où on voyait le jeune couple qui se mariait, qui sortait de la maison parentale, une grande ferme de la région, enfin une ferme ordinaire de la région, et on voit la jeune épouse avec sa belle robe de mariée et son fiancé qui était à genoux sur le seuil de la maison, une grande pierre pour entrer dans la maison. Ils étaient à genoux sur le seuil de la maison et le papa de la maison leur imposait les mains. Juste magnifique. Alors que dans la tradition et la culture, c'était le curé qui bénit. Mais là, cette photo était tout à fait touchante parce que le patriarche, le père de la maison, bénissait les enfants avant d'aller à la messe. Je trouvais cette formule absolument remarquable parce que c'est la pensée biblique, c'est que les patriarches bénissaient leur famille. Et ça se passait souvent dans le Yom Kippour, la journée des grandes expiations, le soir du Yom Kippour, le père bénissait ses enfants et le grand-père bénissait ses petits-enfants et il disait en ceci, en termes exacts, il disait « Que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Puis il posait un baiser sur le front de l'enfant et il les bénissait comme cela. Mais c'était autour d'une cérémonie joyeuse, avec un bon repas, etc. Il y avait vraiment du contenu dans cette bénédiction. Frères et sœurs, il nous faut du contenu dans nos bénédictions. Ce n'est pas juste une formule. Je te bénis. Nous disons souvent ça. Mais derrière ces formules, il faut qu'il y ait du contenu. Est-ce que nous mettons du contenu dans nos bénédictions? C'est la question que... Alors, j'en viens à mon thème. Je vous ai dit, on va parler de la richesse de la bénédiction, mais en réalité, mon thème est celui-ci. Ne pars pas dans la vie sans la bénédiction du Père. Ne pars pas dans la vie sans la bénédiction du Père. Car il y a une chose aujourd'hui que je constate, c'est que le lien entre les générations n'est pas évident. Il n'a jamais été évident, même autrefois. Mais aujourd'hui, il y a facilement des coupures aussi au niveau de nos églises. Il y a les églises de jeunesse, il y a des églises plutôt dans le style que nous avons dans nos églises de réveil, etc. Et puis il y a d'autres. Mais cette connexion entre les générations fait partie du cœur de Dieu, c'est biblique et ça ne changera jamais et ça doit être comme ça. Il ne faut pas bouger ces choses parce que les anciennes générations ont besoin de bénir les nouvelles générations. C'est ce que Dieu veut. Nous allons voir maintenant un texte biblique et je vais juste vous montrer tracer le contour de cette histoire de l'Ancien Testament où nous allons voir à quel point la bénédiction était importante pour les jeunes. Mais de tout temps, les jeunes ont voulu faire la différence. Nous, on a tous été jeunes et on a voulu se démarquer de nos parents en faisant autrement. N'est-ce pas vrai? Soyez honnêtes. Hein, on voulait faire différemment. On ne voulait pas toujours suivre les traces de papa. On ne voulait pas toujours faire comme... on voulait créer notre monde à nous. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais ce que ces deux jeunes dont je vais parler ont compris, c'est qu'ils avaient besoin de la bénédiction de leur papa, même s'ils n'étaient plus vraiment en accord sur tous les termes, ils avaient leurs différences et ils avaient besoin de cette bénédiction. Il s'agit, vous l'avez sûrement deviné, de la bénédiction que Isaac, le vieil Isaac, aveugle, pratiquement aveugle, va donner à ses fils. À un de ses fils. Et nous savons que la famille d'Isaac, c'est magnifique comment ça a commencé, comment Isaac a trouvé sa femme. C'est Exode, Genèse chapitre 24, c'est magnifique. Il trouve sa femme, c'est une vraie romance. Mais voilà que Rebecca est stérile. Isaac a déjà 40 ans quand il se marie. Mais il est dit, la parole de Dieu dit que Isaac a prié pour sa femme. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. Mais du temps a passé. Il a 60 ans maintenant, notre Isaac, à l'arrivée des jumeaux. Et la Bible parle d'une manière prophétique. Rebecca va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'agite tellement dans mon ventre. Et Dieu va lui parler qu'il y a deux courants, deux nations qui vont sortir de ces deux jumeaux. Ésaü et Jacob. Deux garçons très différents, complices comme tous les jumeaux, joueurs, rigoler, faire des blagues, faire des bêtises, mais aussi très différents dans leur tendance, dans leur recherche, très différents dans leur manière spirituelle de saisir l'héritage qui vient d'Abraham, Isaac, et qui arrive chez eux maintenant. Nous est dit que Ésaü est profane, il n'est pas très intéressé aux choses spirituelles. Tandis que notre Jacob, qui est un petit peu un rusé, un opportuniste, quelqu'un qui saisit des chances et qui essaye de louvoyer comme ça pour s'en sortir au mieux, lui est tout différent. Lui est le petit chouchou de maman, tandis qu'Ésaü est le petit chouchou de papa. Donc tout ça déjà vous montre le tableau de cette famille complexe. Nous lisons maintenant la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre 27 et nous sommes en plein dans la fameuse cérémonie de la bénédiction. Ça va, vous imaginez un peu le tableau. Nous lisons au chapitre 27 et au verset 30. Isaac finissait de bénir Jacob. Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses toi-même. » Son père Isaac lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Mais je suis ton fils, premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême. Il dit, « Mais qui donc est celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, extrêmement amer, soulignez ça. Il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père !» Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Voilà, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, j'arrive à la fin de ma lecture, c'est le dernier verset. « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père ? Moi aussi, bénis-moi, mon père. Moi aussi, bénis-moi. » Est-ce que vous entendez, dans cette histoire touchante et dramatique, vraiment, où une belle cérémonie bien préparée, où toute la charge de la bénédiction de l'ancêtre rejaillit sur Isaac et c'est le moment de la faire passer dans la génération suivante. On voit que tout ça, c'est gâché, la fête est gâchée totalement parce que tous les deux voulaient la bénédiction de papa. Pourquoi ? Parce que tous les deux savaient que sans cette bénédiction, il allait leur manquer quelque chose d'essentiel dans la vie. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se promènent dans la vie et qui sont à la recherche de la réussite et qui construisent leur vie, mais ils la construisent sans la bénédiction de personne. Jamais personne n'a pris la peine de s'arrêter pour les bénir d'une manière ou d'une autre. Ils se sont construits eux-mêmes et ils s'en vont dans la vie et ils réalisent, et j'en ai parlé avec beaucoup, qu'il leur manque quelque chose. Et ils ne savent pas ce qui leur manque. Si vous les questionnez, mais qu'est-ce qui te manque ? Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. La bénédiction de Dieu est indispensable pour s'en aller dans la vie. La bénédiction du Père est indispensable. Et dans cette situation dramatique où nous voyons Isaac qui est floué par la ruse et par la tromperie et le mensonge de ce jeune en connivence avec sa maman d'ailleurs, c'est pour ça que la famille va s'éclater totalement après cette histoire, et que finalement, c'est bien Jacob qui est parti dans la bénédiction, mais il aura aussi le retour de sa monnaie. Il sera aussi roulé dans la farine à plusieurs reprises. Mais il cherchera jusqu'au bout, il aimera jusqu'au bout la bénédiction. Lorsqu'au chapitre 32, vous le verrez se battre avec l'ange, il dira encore, bénis-moi, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Vous savez, il a couru après la bénédiction, étant mal parti, finalement il était obligé, maintenant il va être obligé de quitter la maison, mais il part avec une bénédiction, mais c'est mal parti quand même. Mon frère, ma sœur, si ta vie, quelque part, est partie de travers et que tu es parti de la vie avec quelque chose que tu as reçu à moitié ou que tu n'as jamais reçu, si aujourd'hui tu as faim et soif de la bénédiction, tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Parce que nous avons au milieu de nous, alléluia, plus grand que Isaac qui a dit, Je n'ai qu'une bénédiction. Notre Dieu, notre Père Céleste, a plus qu'une bénédiction. Il te bénit parce qu'il est généreux. Il a tout ce qu'il faut pour te communiquer le plein pouvoir, la pleine autorité de la bénédiction du Père. Du Père. Et ce cri amer, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi je ne suis pas béni? J'en ai tellement besoin pour bâtir ma vie. J'aimerais que vous puissiez entendre aussi dans la jeune génération ces cris. Pourquoi est-ce que je cours après quelque chose et je ne sais même pas ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il me manque quelque chose et je ne sais pas ce qui me manque, mais il me manque quelque chose? Le monde a besoin aujourd'hui de papa et de maman, de père et de mère qui bénissent nos jeunes. Que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, mais nous avons reçu un pouvoir, une autorité de la part de Dieu pour bénir. Et c'est ce que je veux faire, et je suis sûr que vous désirez le faire jusqu'à votre dernier souffle. Bénissez. Bénissez. La bénédiction du Père signifie deux choses. Premièrement, ça voulait dire « Mon fils, ma fille, je te reconnais comme mon enfant. Je te reconnais comme mon fils, comme ma fille. » Mais deuxièmement, je te transmets quelque chose que plus tard tu vas transmettre à la génération suivante à ton tour. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, mais c'est quelque chose que je te transmets. Ce n'est pas un héritage en monnaie, en bien matériel, c'est un héritage spirituel que Dieu m'a donné de transmettre pour qu'à ton tour, tu le transmettes plus loin, plus tard, quand l'heure sera venue. Mais revenons à ce que je disais. La bénédiction du Père, c'était... Pourquoi est-ce que je parle du Père? C'est sûr que la bénédiction de papa et de maman est nécessaire pour l'éducation de l'enfant. Les deux sont nécessaires. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le père, il a un mandat, il a reçu de Dieu, depuis la Genèse, nous voyons ça, une autorité, même s'il ne se rend pas compte. Une autorité qui lui a été donnée par délégation pour bénir sa famille, pour bénir ses enfants. Et je me souviens, nos enfants, pour partir à l'école, ce n'est pas toujours une grande cérémonie. Mon fils, viens ici, que je t'impose les mains, je te bénis. Il n'y a pas besoin de faire des grandes cérémonies, mais d'une manière ou d'une autre, vous le faites. Il faut le faire. Il faut que quelque chose passe. De dire « je le bénis », c'est aussi important. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi. De le dire. Mais la bénédiction du Père est importante parce que c'est le Père qui va donner plus l'impact de l'identité sur l'enfant. Avec la maman, l'enfant est plus fusionnel en général, mais le Père est son opposé et va lui conférer beaucoup plus l'identité. L'identité. Sa construction est nécessaire par les deux parents, mais l'absence du Père crée beaucoup de dégâts aujourd'hui et crée un vide et crée ce que je vais détailler dans un instant, l'esprit d'orphelin. Je vais le détailler ça dans quelques instants. Et nous savons que cette reconnaissance du Père est tellement importante pour l'enfant. C'est pour ça que, par exemple, dans le Nouveau Testament, il est dit à plusieurs reprises, dans Romains, dans Galates aussi, que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Père, Papa ». Il faut que tu saches aujourd'hui que tu es un enfant adopté de manière filiale, c'est-à-dire que tu n'es pas un choix de seconde zone, mais tu es une véritable adoption filiale. Légitimement, tu es enfant du Père au travers de Jésus-Christ. Au travers de son sacrifice, au travers de son œuvre parfaite et totale à la croix de Golgotha, tu deviens un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le droit de devenir enfant de Dieu. Donc tu es quelque chose que le diable attaque tellement il l'a fait pour Jésus. Lorsqu'il était tenté, il lui a dit, est-ce que si vraiment tu es fils de Dieu, il remet en question la filialité. Si tu es fils de Dieu, alors, il fait la suite et il essaye de le tromper, de le séduire et de lui mentir. Il touche à son identité. Ne laissez jamais personne, ni aucun esprit mauvais, aucun diable vous dire que ce n'est pas vrai ces choses. Tu es adopté, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, tu es une fille du Seigneur. Et il te reconnaît comme tel. Parce que vous êtes fils, Galates chapitre 4, verset 6, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave, tu es fils, tu as une place spéciale. Je pense à ce jeune qui devait reprendre l'entreprise familiale du papa. Mais le papa était malade et il voulait transmettre assez rapidement à son fils qui terminait sa formation. Mais voilà que le fils a eu un appel pour être dans le ministère. Et lorsqu'il visite son papa malade sur son lit, et qu'il avait tardé à le dire, mais lorsqu'il lui dit « Enfin, je ne vais pas reprendre l'entreprise », le père va lui dire « Mon fils, tu fais ma honte ». Et le garçon va encaisser ça, il ne va pas bouger, mais il va porter ce rejet et cette absence de bénédiction de son père en rentrant dans le ministère. Et il va dire ceci, « J'étais prêt à donner ma vie pour Jésus. Je travaillais comme un esclave. » C'est quoi qu'on a lu là ?« Vous n'êtes plus esclaves, mes fils, mais je ne vivais pas comme un fils. » Parce que mon père ne m'avait pas béni. Il est arrivé un jour où dans une réunion, dans un moment particulier, dans un séminaire ou dans une réunion, il y a une parole de révélation. Il y a ici quelqu'un qui n'a pas été béni par son père, mais qui a été plutôt quelque part maudit, quelque part rejeté. Et tu portes avec toi ce vide, cette recherche du Père qui te bénit. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Et il a décrit sa situation, il est venu, il a reçu vraiment. Il a été apaisé dans son âme, dans son cœur ce jour-là. Il a été apaisé. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui, ce matin, tu n'es pas totalement apaisé, quel que soit notre âge d'ailleurs, que quelque part, quelque chose vous a manqué de la part de votre papa. Je vous fais une parenthèse en racontant quelques lignes de ma propre vie, quelques pages de mon témoignage. Je vous ai dit, dans la culture dans laquelle j'ai été élevé, dans l'est de la Belgique, c'était une culture de travail. Mes parents ont vécu la guerre. Et c'était la génération de rebâtir le village, le pays, etc. etc. C'était une génération de survie qui voulait donner à leurs enfants, que j'étais, quelque chose de mieux. Donc ce qui était des valeurs centrales pour tout le monde d'ailleurs, pas pour moi seulement, mais pour tout le monde, le travail. Tu existes si tu réussis, tu existes si tu bosses. Tu existes si tu fais, si on te voit travailler. Et lorsque, moi aussi, je suis parti à l'école biblique, j'avais mon diplôme d'ingénieur en poche. J'étais le deuxième du village à l'avoir réussi et mes parents étaient fiers. Ils ne le disaient pas, mais ils l'étaient. Mais lorsque j'ai laissé ma carrière de côté, pour partir à la formation à l'école biblique, plus personne n'a parlé à la maison. Car plus personne ne comprenait ce qui se passait. J'étais complètement à côté de la culture, à côté de la tradition habituelle et de la manière de faire pour être dans le sillage de tous ceux qui sont de ma génération. Pourquoi est-ce que je fais autre chose que personne ne comprend? Et ainsi, j'ai vécu avec ce vide. Et mon père ne m'a pas maudit. Au contraire, quand je suis parti à l'école publique, je n'avais pas d'argent. Ils m'ont donné un peu. Sans, juste parce que, c'est par amour, simplement, parce qu'ils m'aimaient. Ils ne me le disaient pas, mais ils l'ont montré de cette manière. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin d'entendre « je t'aime, je t'aime, je t'aime » sur les actes qui disent « je t'aime ». Donc me voilà parti à l'école biblique. Et comme l'histoire que je viens de vous raconter, pareil, j'étais avec quelque chose qui me manquait. Et je me vois encore en train de marcher dans le parc de l'école biblique et je me battais, je ne sais pas trop avec quoi. Et j'avais ma Bible, j'étais en train de méditer Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, où Jésus parle du Père, parle de l'Esprit, parle de cette relation intime. Et le Saint-Esprit vraiment souligne cette relation avec le Père. Moi, je connaissais Jésus, je connaissais le Saint-Esprit, mais le Père, ça ne me parlait pas jusqu'alors. Ça ne me parlait pas. Et là, ça a pris un certain temps, ça a pris quelques semaines. Tout doucement, il y a eu cette révélation. Et c'est pour ça que j'insiste, si tu n'as jamais reçu la révélation du Père Céleste dans ta vie, il te faut une révélation. Ce n'est pas quelque chose que tu dois uniquement apprendre, mais ça doit devenir quelque chose que le Saint-Esprit écrit sur les tablettes de mon cœur. Et c'est ce qu'il a fait petit à petit, il y a quelque chose, cet accueil du Père, cette acceptation du Père, cet amour du Père, cette reconnaissance du Père. C'est pour ça que je disais, le Père en bénissant l'enfant, il reconnaît comme son fils. Et cette reconnaissance, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas et je savais que mon Père, quelque part, ne me reconnaissait pas. Il ne me l'a pas dit avec des mots, mais je l'ai senti comme ça. Et là, le Père Céleste me dit, au travers de ces quelques semaines de méditation et de prière et de combat intérieur, il me dit, Walter, je te reconnais comme mon fils. Je te reconnais pour qui tu es. Et ça a été vraiment un immense changement. Et il y a eu vraiment un apaisement. Je vous disais tout à l'heure que les enfants qui n'ont pas été bénis, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont agités intérieurement. Ils se cherchent, ils font ci, ils font ça. Et ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils sont intérieurement, ils ne sont pas apaisés. Mon frère, ma sœur, ma question est celle-ci. Est-ce que tu es apaisé dans ton cœur? Mais vraiment cette paix intérieure qui te dit, mais je n'ai pas tout reçu de mes parents. Parce que je reviens à mon père, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire plus? Parce qu'il n'avait pas reçu lui-même de ses parents. C'est pour ça aussi que je ne lui ai fait aucun reproche. Aucun. Aucun. Et lui, il ne pouvait pas faire plus. Il ne connaissait pas l'Évangile, il ne connaissait pas cette révélation du Seigneur. Et Dieu dit, mais moi je vois ta vie, je vois ton contexte. Et maintenant c'est moi qui te bénis, qui te donne ce que ton papa n'a pas su faire. Et vous savez, pour finir, papa, il est décédé, ça fait plus de 20 ans, 21 ans. Pour finir, c'est moi qui l'ai béni. Sur son lit de mort, c'est moi qui l'ai béni. Je lui ai dit, papa, merci pour tout. Et je l'ai embrassé et je l'ai béni. La dernière fois que je l'ai vu, c'était comme ça. La plus belle chose que j'ai pu faire. Parce que quand tu reçois du Père Céleste, tu peux bénir des multitudes. Et si tu n'as pas reçu, le Père veut te donner ce qui te manque aujourd'hui. C'est fondamental de ne pas partir de la vie sans la bénédiction du Père parce que ça te donne de l'élan, ça te donne la force, ça te donne l'énergie parce que tu sais que ton papa est derrière toi. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Parce que si tu n'es pas dans cette bénédiction, tu as cette mentalité de l'orphelin qui est agité, qui recherche toujours la reconnaissance. J'en ai connu beaucoup dans l'Église, des gens qui cherchaient toujours à être reconnus dans leur ministère. S'ils n'étaient pas reconnus un tant soit peu, ils étaient malheureux, ils claquaient les portes, ils étaient fâchés, Mais mes amis, si personne ne vous reconnaît, Papa Céleste vous reconnaît. Il vous reconnaît. Tu n'as pas besoin de vouloir démontrer que tu as quelque chose en disant « Hé, je suis là, j'existe ». Je connais des gens qui n'ont fait que ça pendant des années. Même des personnes d'un certain âge, ils disaient « Oh, j'existe, repérez-moi, localisez-moi, reconnaissez-moi ». Ou d'autres qui, au contraire, se cachent pour qu'on aille les chercher. « Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste comme ça ?» Ils veulent être reconnus, ils veulent être consolés, ils veulent être remarqués, ils veulent être pris dans les bras. Et cette recherche de reconnaissance disparaît quand tu rencontres le Père. La bénédiction du Père, c'est fondamental. Abandonne cette mentalité d'orphelin. Et je prie que ce matin, vraiment, l'esprit de consolation vienne sur ceux qui sont en manque. Jamais personne ne s'est arrêté près de toi pour te bénir vraiment, et tes parents ne sont plus là pour le faire. Ils ont peut-être fait des choses, mais tu n'as pas remarqué qu'ils te bénissaient. Ça n'a pas été dit, et puis... Vous savez, je vais vous dire encore une chose. Ma mère est décédée en 2017. Et j'étais là quand elle est décédée, j'étais là. Mais dans la mentalité de mes parents, on ne disait pas justement l'approbation, l'amour, ou alors comme on dit aujourd'hui beaucoup à nos enfants, je t'aime, je suis fier de toi, puis on va les applaudir quand ils réussissent un examen, quand ils ont leur diplôme et tout ça. Moi, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Et je me souviens que ma mère avait une amie dans le village que je suis allé la visiter le lendemain. Et je lui ai dit, tu crois que ma mère était vraiment fière de moi? Elle me disait, Walter, c'est dommage que tu ne l'as pas entendu de sa bouche, mais elle parlait partout qu'elle était fière de toi. J'aurais tellement voulu l'entendre. Elle le disait ailleurs, mais moi je ne l'ai pas entendu. C'est son ami qui me l'a redit. Mais pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'il me manquait quelque chose. C'est pour ça que j'arrive à ce point maintenant, qui va être marquant, vous allez le voir. Et où nous voyons Jésus qui va vivre ce dont je suis en train de parler ici. Dans Matthieu chapitre 3, le baptême de Jésus, regardez bien ce qui se passe. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Jésus est dans les eaux du baptême, il n'a encore rien fait. C'est le démarrage. Jean-Baptiste est là, Jésus arrive et Jean-Baptiste reconnaît Jésus et Jésus rentre dans les eaux du baptême et il se fait baptiser dans la même eau que le voleur, le menteur, le tricheur et comme tous les autres. Jésus s'identifie déjà avec la condition humaine. Et lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, vous avez lu ce qui se passe, ce que la Bible dit dans les trois évangiles, c'est marqué, Matthieu, Marc et Luc, c'est marqué, que Jésus... Et dans les eaux du baptême, le ciel s'ouvre, la colombe descend sur lui, le Saint-Esprit descend sur lui, et la voix du Père se fait entendre, « Tu es mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père ouvre le ciel pour lui dire, « Tu es mon Fils, bien-aimé. » Non pas parce que le Fils a fait des miracles ou il a fait de grandes choses, mais parce que tout simplement, il n'a encore rien fait du tout, mais c'est son Fils. Il reçoit et il entend l'approbation du Père avant d'avoir fait quelque chose. Notez cela, ce n'est pas parce que tu as fait des choses, parce que tu es un bon chrétien, parce que tu as rendu témoignage, parce que tu as lu ta Bible, parce que tu as beaucoup prié, tu as jeûné, que le Père est fier de toi. Il est fier de toi parce que tu es son fils et sa fille. Alléluia. C'est fondamental. Jésus, si Jésus avait besoin d'entendre la voix du Père, à plus forte raison avons-nous besoin de l'entendre aussi. Je voudrais que ce matin, tu entends dans ton cœur. Tu es mon enfant, je te reconnais, je t'approuve comme mon fils et ma fille. Même si tu as fait plein de bêtises, tu restes son fils. Tu restes son fils. Je ne vous laisserai pas orphelin, disait Jésus. Car le statut d'orphelin, il est tragique. Il est malheureux. Il y a tant d'orphelins qui circulent dans ce monde, qui ne savent pas qu'ils ont un papa céleste, qui ne connaissent rien de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Dieu veut passer la bénédiction au travers de toi pour leur dire, pour leur signifier, pour leur montrer d'une manière ou d'une autre qu'ils sont aimés, reconnus par un père. Tant de gens ne savent rien de leur père, ils sont en brouille avec la génération qui les précède. Ils ont claqué les portes, ils sont à la maison. J'habitais 22 ans à la gare et je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que ça. Des gens en rupture. Des gens en rupture, et quand je parle autour... Je sortais de la maison, j'étais accosté au moins 4 fois, chaque jour. Et quand vous voulez, je dis juste encore une deuxième parenthèse, lorsque vous voulez parler avec eux, vous leur donnez peut-être une pièce, mais souvent je ne donnais plus rien, bien sûr, parce que c'était que pour les joints et pour la drogue, mais quand vous voulez parler, ils sont tellement en souffrance qu'ils se fâchent quand vous leur posez des questions. Et ils s'éloignent de vous. Je dis, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu es là? Ils se fâchent, ils sont habités par cette rage, cette douleur et cette souffrance d'être seul dans la vie, d'être abandonné comme ça. Frères et sœurs, le monde a besoin de pères et de mères qui ont reçu la bénédiction et qui la partagent. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas être trop long, je vais arriver vers la conclusion. Quand on pense au fils prodigue, Luc chapitre 15, un des textes clés, magnifique, eh bien, on voit justement l'image de ce jeune qui veut rompre avec la génération de son papa, qui veut quitter la maison, il veut voir le monde, il veut faire à sa manière, il ne veut plus voir le visage du père, il ne veut plus l'entendre, il a assez entendu. Il dit... Donne-moi de l'argent, donne-moi mon héritage. Et on le voit partir avec son petit baluchon. Et le voilà parti. Wow, la vie est devant moi. Le monde est à mes pieds. Et puis, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en se coupant de son père et de la maison du père, il se coupait de quoi? De la protection du père. Et donc, il va être perdant tout le long. Il va perdre, lisez le texte, il va perdre l'argent, il va perdre ses amis, il va être tout seul, il va perdre sa réputation, il va perdre son finalement à la limite de perdre son âme. Et là, il réfléchit, il disait, « Oh, si je pouvais seulement revenir à la maison de mon père. » Pas la maison, je ne vais pas retrouver mon frère, je ne vais pas retrouver, je veux la maison, je veux le père. Parce que c'est le père qui peut le rassurer, le réintégrer et le restaurer. Et quand il revient, la Bible nous parle tellement de manière extraordinaire comment le Père l'accueille. Et il va retrouver ce qu'il a perdu. Il dit, mais je ne suis pas digne, fais de moi un serviteur. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, mais vous êtes fils. Le Père dit, non, tu es fils, tu restes fils. Si vous avez perdu quelque chose, revenez aujourd'hui là où vous avez lâché la chose, là où vous avez perdu, là où vous avez abandonné, là où vous avez péché. Revenez là et montrez ces choses au Père. Il vous accueille, il vous pardonne, il vous libère, il déchire les chaînes qui sont autour de vous et les mensonges du diable seront dénoncés au nom de Jésus pour que vous puissiez savoir le Père, même éternellement, et nul ne me ravira de la maison du Père au nom de Jésus. Le Père qui bénit. Je termine. Où sont aujourd'hui les pères qui bénissent? Pas besoin de faire un grand cérémoniel comme Isaac ou les patriarches de l'époque d'Abraham, mais votre mandat, mes frères, c'est de devenir un père qui bénit. Même si tu n'as pas d'enfant, Dieu t'a confié une autorité, un mandat spirituel pour que tu le transmettes à quelqu'un. Nous avons dans l'église de Genève un couple qui, je ne vais pas raconter leur histoire, ce serait trop tard, mais ils ont perdu un enfant qui est décédé au bout de 2 jours. C'était un grand, grand, grand prématuré. Vraiment, c'était une attente, c'était un miracle extraordinaire. Et puis voilà que l'enfant est décédé. Ça remonte à longtemps. Et ils se sont relevés de ce chagrin énorme. Et ce couple-là, C'est un couple aussi étonnant que ça paraisse, c'est un couple de vrais parents. Ils sont parents pour des jeunes, mais je ne vous dis pas le nombre. Je ne vous dis pas le nombre. Les jeunes courent après eux, veulent être avec eux en permanence. Ils partent en vacances, c'est un couple qui n'a pas d'enfants, mais des jeunes de 30 ans les appellent papa et maman. C'est impressionnant. Le monde a besoin de ça. Deviens un père et une mère pour tant de gens autour de nous qui ne savent même plus ce que c'est aujourd'hui. Parce que tu as reçu du Père Céleste cette identité, cette paix, cette assurance, cette reconnaissance. Et tu sais que tu peux transmettre, même si tu n'es pas un prédicateur, tu peux transmettre par ton amour, par l'affection, la générosité, par qui tu es, tu transmettras quelque chose. Aime la génération qui est derrière toi. Bénis-la. Arrête de te fâcher sur eux en disant c'est une génération paumée, perdue ou qui ne sait pas ce qu'elle se veut, elle est trop gâtée, c'est plus ma génération. Ils ont besoin de la bénédiction du Père. Le dernier verset de Malachie nous dit que le Seigneur va ramener le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Est-ce que nous voulons connecter ça? Deviens père. Si tu n'as pas été béni, bénis Dieu pour ton papa, ta maman. Même s'ils ne sont plus là, tu peux le dire, Seigneur, merci. Parce qu'en son temps, tu me les as donnés. Ils ne m'ont pas tout donné. Personne n'est parfait. Aucun parent n'est parfait. Aucun. Mais la Bible dit quand même, honore ton père et ta mère. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je ne vais pas le faire. Il y a aussi des pères qui ont été indignes, qui ont été terribles et qui portent une lourde responsabilité. Ce matin, pardonne-leur. Libère-les. Pardonne-leur. Afin que toi, tu sois libre et que tu rentres dans ton mandat. Je prie, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever. J'aimerais terminer par la prière. Le Seigneur dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Père Céleste, je te bénis, Seigneur, ce matin, pour cette belle église de Bienne. Seigneur, cette belle communauté, Seigneur. Seigneur, tu l'aimes, parce que chaque frère et chaque sœur ici présent, Seigneur, a besoin d'être ton enfant, l'enfant du Père. Et Seigneur, je te prie que chacun puisse grandir dans cette dimension de la reconnaissance du Père et de la révélation du Père. Et si quelqu'un ce matin, pendant que je prie, je fais cet appel en même temps, si quelqu'un ce matin dit, mais moi je n'ai pas encore cette révélation du Père, moi j'aimerais tellement l'avoir. Et je suis un peu comme Ésaü qui dit, papa, n'as-tu rien pour moi? Est-ce que tes mains sont vides? Non, les mains du Seigneur sont pleines. Et il étend sa main sur toi dans la mesure où tu le veux. J'aimerais que tu sois comme aussi friand de la bénédiction comme l'étaient Ésaü et Jacob. Ils voulaient coûte que coûte la bénédiction de leur vieux père qui n'avait pas grand-chose à donner. Mais ce matin, le Seigneur est un Dieu généreux, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Père céleste, c'est notre Père, comme dira Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh, étendez vos cœurs ce matin vers le Père qui vous aime et qui est là par son esprit et qui veut graver ces choses profondément dans nos cœurs, car nous en avons besoin, c'est essentiel, c'est capital et c'est fondamental. N'avance pas dans la vie sans cette bénédiction. Et si quelqu'un a besoin non seulement de la révélation, mais il a besoin de la bénédiction vraiment clairement aujourd'hui, tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, bénis-moi aussi, bénis-moi. Seigneur, je veux crier « Abba, Père, je n'ai pas reçu un esprit d'esclavage. Je ne suis pas juste un serviteur ou une servante, mais je suis ton fils, ta fille bien-aimée en qui tu mets toute ton affection. Père, j'ai droit à toute ton affection. Pas un peu parce que j'ai bien travaillé ou parce que je mérite ceci, mais j'ai droit à toute ton affection parce que je suis ton enfant en Jésus-Christ. » Alléluia. Recevez ce matin, recevez. Quel que soit notre âge, on a besoin d'un rafraîchissement de ces notions, de cette révélation. On a besoin que ça puisse encore une fois s'imprimer en nous. Et comme je vous l'ai dit, votre mandat, mon mandat, c'est de communiquer ça plus loin. La transmission doit fonctionner. Elle ne doit pas s'arrêter. Si elle s'est arrêtée devant ta vie, eh bien toi, tu la reçois et tu la réactives ce matin pour la redonner plus loin. Alléluia. Même envers ceux qui vraiment sont différents ou qui ne te donnent rien en retour, toi, tu vas donner parce que tu as reçu du Père. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à prier tous à haute voix. Tout le monde doit dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, donne-moi ce matin. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné. Tu m'aides à transmettre ce matin. Tu m'aides à donner. Seigneur, tu m'apaises, Seigneur, là où je mal, Seigneur. Là où j'ai rien reçu, Seigneur. Là où j'étais que devant un vide, Seigneur. Je libère mes parents, je pardonne à mes parents. Je les bénis et je te dis merci pour ceux qui m'ont quand même donné. Je n'ai pas tout reçu comme j'aurais souhaité, comme je le méritais, mais Seigneur, toi tu es là et tu compenses tout ça. Tu complètes tout ça, Seigneur, c'est merveilleux. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.